Et puis aussi, dans chapitre 10, donc le chapitre suivant, à partir du verset 1, il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier de la cohorte appelée Italienne. Il était pieux et avec toute sa maison, il craignait Dieu, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait constamment. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait « Corneille ». Il fixa les regards sur lui et saisi de crainte, il lui dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu. Envoie maintenant des hommes à Jaffa et fais venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est au bord de la mer. » Dès que l'ange lui avait parlé, fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui lui étaient attachés, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jaffa. Avant de commencer le message proprement dit, je voudrais dire la chose suivante. Que ceux qui auront l'impression de ne rien apprendre pendant les minutes qui vont suivre ne se disent pas qu'ils ont perdu leur temps en écoutant cette prédication parce qu'ils sont déjà convaincus du bien fondé de ce que je vais dire. Ne sommes-nous pas émerveillés jour après jour en découvrant le soleil qui brille dans un ciel bleu? Ou en entendant les oiseaux chanter comme je les ai entendus ce matin alors qu'il faisait encore nuit, ou en admirant la variété des fleurs de notre jardin. De la même façon, comment se lasser de réentendre la façon merveilleuse dont Dieu s'y prend pour parler au cœur de l'homme et le conduire sur le chemin qui mène à Jésus. De plus, c'est important à comprendre aussi, une prédication ne sert pas seulement à nous faire grandir dans la foi. Elle est aussi une formation permanente. C'est un terme bien connu, ça, dans le monde des affaires. Une formation permanente pour grandir dans le service du Christ. Comme vous vous en êtes aperçu, je n'ai pas lu tout le chapitre 10, qui est assez long. Mais j'espère que beaucoup d'entre vous se souviennent de la suite de ce récit extraordinaire qui marque un tournant radical dans l'annonce de la parole de Dieu. C'est un jour charnière. En effet, c'est la première fois que l'Évangile est annoncé à des païens. Et ces derniers, comme les Juifs, le jour de la Pentecôte, ont été eux aussi baptisés du Saint-Esprit, comme on le voit au verset 44, que je cite. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis, donc des Juifs, hein, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Malgré l'importance de cet événement, ce n'est pas cela que je veux souligner aujourd'hui. Le thème que je veux aborder ce matin s'est imposé à moi, à la lecture de ce livre. Mes voix ne sont pas vos voix, que je recommande à tous de lire. L'auteur est un pasteur américain, Nick Ripken. C'est un pseudonyme qu'il est obligé de prendre pour des raisons de sécurité pour lui-même et pour les chrétiens persécutés qu'il rencontre. Donc cet homme, avec son épouse Ruth, a consacré sa vie à venir en aide aux autres, et notamment aux populations les plus pauvres de Somalie, meurtries d'une façon incroyable par la guerre civile en 1992, cette guerre terrible qui engendrait famine, violence extrême et anarchie, mais qui est aussi intervenue en Chine, en Russie, en Inde et dans de nombreux pays musulmans pour rencontrer et encourager des chrétiens persécutés. Lorsque le couple revenait aux États-Unis pour se reposer et se ressourcer, ils racontaient leurs expériences à des étudiants chrétiens qui avait soif d'en savoir plus sur la persécution des chrétiens dans le monde. Et c'est à l'occasion d'une de ces rencontres qu'il écrit ceci. Écoutez bien, je cite. J'ai confessé quelque chose aux jeunes. Un problème récurrent dans ma vie qui avait commencé lorsque j'étais étudiant sur ce même campus. J'avais rencontré la même difficulté quand j'étais à l'école biblique. Puis, en travaillant comme pasteur, et également lors de mon départ en mission pour apporter l'amour du Christ et son enseignement à d'autres de par le monde. J'avais étudié les Écritures, je les avais enseignées, j'avais cru toutes les histoires qu'elles contenaient sur Dieu, parlant au travers de rêves et de visions. Je savais qu'il avait fait des miracles, comme guérir des malades et ressusciter des morts. Je croyais que tout cela était arrivé. J'en étais certain. Le problème, c'est que j'avais toujours considéré la parole de Dieu, en particulier l'Ancien Testament, comme un livre d'histoire sainte. Pour moi, c'était les archives de ce que Dieu avait fait dans le passé. C'était probablement la raison pour laquelle les derniers entretiens m'avaient si profondément affecté en entendant les expériences de ces chrétiens sous la persécution. Je me sentais terriblement repris. À la lumière de tous ces témoignages, je ne pouvais arriver qu'à la conclusion suivante. Il était évident que Dieu continuait aujourd'hui à accomplir des prodiges comme au temps biblique. Ce fait était irréfutable. Dieu faisait toujours les miracles qu'il avait réalisés depuis la création du monde, au moins parmi les gens qui le suivaient fidèlement, dans les endroits les plus difficiles. Pour l'avoir entendu très souvent, je sais que le problème du pasteur Rick Ken, pendant une partie de son ministère, est aussi le problème de nombreux chrétiens. Aujourd'hui, ils aiment le Seigneur, ils lisent fidèlement la Bible et sont engagés dans la vie de leur communauté. Ils croient que les faits racontés dans l'Écriture sont vrais, ont bien eu lieu, guérison, résurrection, miracle, délivrance de démons, révélation, comme dans le récit que nous avons lu dans le livre des Actes. Mais ils ne croient pas que ces mêmes choses puissent se reproduire aujourd'hui. Sur quels critères font-ils cette croyance ? Sur certains enseignements de pasteurs, mais aussi l'enseignement de Calvin lui-même, qui a écrit la chose suivante. Ces vertus merveilleuses et opérations manifestes, distribuées par l'imposition des mains, c'est toutes les prodiges qui se sont faits, ont cessé et n'ont dû être que pour un temps. Et il ajoute plus loin, quand le Seigneur les a fait cesser, il n'a pas pour autant délaissé son Église, mais a déclaré que la magnificence de son règne et la dignité de sa parole étaient assez hautement manifestées. On trouve ça dans l'Institution chrétienne, le livre 4, le chapitre 19 et le paragraphe 6. Autrement dit, les dons de l'Esprit ne sont plus nécessaires aujourd'hui. La parole de Dieu suffit pour que les hommes viennent à la foi et grandissent dans la foi. Où trouve-t-on cela dans la Bible? Où trouve-t-on que Dieu aurait décidé de ne plus agir aujourd'hui comme il le faisait hier? Frères et sœurs, on le trouve nulle part. Et pourtant, de nombreux chrétiens continuent à le croire. Lorsqu'ils entendent ou lisent des témoignages contemporains de guérison, de miracles, de révélation, de délivrance, de paroles, de connaissances, de prophéties ou de résurrection, ils nient l'authenticité des faits. Ils parlent de guérison spontanée et naturelle que la science expliquera un jour, ou bien de guérison qui ne dure pas. À propos des résurrections, ils affirment que les personnes concernées n'étaient pas vraiment mortes. Ils ne croient pas au don de l'esprit et se méfient de ceux qui prétendent les exercer. Et à propos des délivrances opérées par les chrétiens, ils reprennent parfois ce que certains pharisiens disaient à propos de Jésus. Que disaient-ils ? C'est par le prince des démons qu'il chasse des démons. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Qu'en êtes-vous, frères et sœurs, avec ce problème? Pour vous, la Bible ressemble-t-elle à des... ne rassemble-t-elle que les archives d'un passé révolu? Comme le pensait le pasteur Ken, avant de confesser qu'il était dans l'erreur la plus complète, lorsque les faits contredisaient sa théologie. Si vous êtes dans ce cas, alors écoutez attentivement le récit de ce pasteur qui a de nombreux points communs avec ce que nous avons lu dans les Actes. Je cite. En rentrant de Chine, je passais quelques jours dans un grand État islamique très strict, appartenant au tiers-monde. Normalement, je devais me rendre dans les pays musulmans l'année suivante, mais cette occasion s'était présentée et nous pensions, ma femme et moi, qu'il fallait la saisir. Pendant que j'étais là, un chrétien de 43 ans, un ancien musulman, entendit dire, par le bouche à oreille, qu'un occidental était dans le pays. Il savait que je voulais découvrir comment les musulmans rencontraient Jésus et à quelles difficultés ils devaient faire face en vivant leur foi dans un environnement hostile. Je ne sais toujours pas comment il a pris ma venue et su où me trouver. Pramana, c'est le nom de cet homme, fit 29 heures de voyage à pied pour venir me voir. Il avait vécu toute sa vie dans une région rurale, tropicale et loin de tout. Il n'était jamais monté dans un bus. Et c'était la première fois qu'il voyait une route goudronnée. Et pourtant, il arriva à me trouver dans une des plus grandes villes de sa contrée. À son arrivée, il annonça tout naturellement : J'ai entendu parler de ce que vous faites, il faut que vous entendiez aussi mon histoire. Cet homme était né au sein d'un groupe ethnique comptant 24 millions d'individus. À notre connaissance, il n'y avait que 3 chrétiens et aucune église. La seule religion que Pramana avait pratiquée ou connue était une sorte d'islam populaire. Il pouvait réciter le Coran par cœur et savait parler l'arabe. Appartenant à une culture de transmission orale, il pouvait mémoriser les paroles d'un livre à la lumière, à la manière de formules magiques. Il connaissait bien sûr l'histoire de Mahomet, mais il n'avait jamais entendu parler de quelqu'un appelé Jésus, ni rencontré des chrétiens. Il n'avait aucune idée de ce qu'était la Bible. Il y a 5 ans, me dit-il, c'est toujours le pasteur qui raconte ce qui lui est arrivé. Il y a 5 ans, me dit-il, donc c'est l'histoire de Pramana, ma vie était en ruine. Ma femme et moi n'arrêtions pas de nous disputer et j'étais prêt à divorcer. Mes enfants étaient irrespectueux, mon bétail ne grandissait pas et ne se multipliait pas et mes récoltes périssaient dans les champs. je suis allé chercher de l'aide auprès de l'imam, à la mosquée la plus proche. Celui-ci, qui faisait également office de médium local, me dit « Voici ce que tu dois faire, mon garçon. Va acheter un poulet blanc et apporte-le-moi. Je le sacrifierai pour toi. Ensuite, retourne au village pour méditer et jeûner pendant 3 jours et 3 nuits. Le 3e jour, tu recevras une réponse à tous les problèmes que tu rencontres avec ta femme, tes enfants, tes bêtes et ta récolte. » Ramana obéit à la lettre. Il retourna dans son village, il médita, jeûna et attendit. « Je me souviendrai toujours de la 3e nuit, m'expliqua-t-il. Juste après minuit, alors que j'étais couché, je ne voyais rien, mais j'entendis une voix qui me dit « Va trouver Jésus, va trouver l'Évangile. » Ce musulman n'avait aucune idée du sens de ces paroles. Il ne savait même pas si Jésus était un fruit, une pierre ou un arbre. Mais la voix continua en disant « Lève-toi, va de l'autre côté de la montagne et suis la côte jusqu'à telle ville, une ville où il ne s'était jamais rendu. » Quand tu arriveras là, au lever du jour, tu verras 2 hommes. Tu leur demanderas où est telle rue, et ils t'indiqueront le chemin. Tu chercheras alors tel numéro. Tu frapperas à la porte, et quand elle s'ouvrira, tu expliqueras pourquoi tu es là. Pramana n'envisageait même pas de désobéir au Saint-Esprit. Pour lui, il était impératif de faire ce que la voix lui avait ordonné. Il n'informa pas sa femme, il savait qu'il allait être absent 2 semaines, sa famille ignorant totalement où il se trouverait. Il se leva, partit à pied de l'autre côté de la montagne, descendit vers la côte, et au lever du soleil arriva à la ville dont le nom lui avait été donné. Il vit 2 hommes qui lui indiquèrent la rue qu'il cherchait. Il l'arpenta jusqu'à ce qu'il tombe sur le bon numéro et frappa à la porte. Un vieux monsieur l'ouvrit et lui demanda « Puis-je faire quelque chose pour vous ?»« Je suis venu trouver Jésus, » répondit Pramana. « Je suis venu trouver l'Évangile. » Immédiatement, le monsieur l'attrapa par la chemise, le tira à l'intérieur en claquant la porte derrière lui, puis il lâcha prise et s'exclama « Vous, les musulmans, devez penser que je suis un idiot pour me tendre un piège aussi grossier. » L'homme, stupéfait et confus, répondit « Je ne sais pas si vous êtes idiot, monsieur, je viens juste de vous rencontrer. Mais voilà pourquoi je suis venu. » Et il lui raconta ce qui lui était arrivé jusque-là. L'esprit du Dieu vivant avait conduit ce jeune musulman par le moyen d'un rêve, d'une vision, et grâce à son obéissance, jusqu'au foyer d'un des 3 chrétiens parmi 24 millions de personnes. Stupéfait, le monsieur lui expliqua l'Évangile et le conduisit à Christ, et pendant 2 semaines, il enseigna ce jeune converti. Ces événements s'étaient produits 5 années auparavant. Maintenant, Pramana, après un autre long voyage, était venu me trouver et me raconter son histoire remarquable. Il avait marché pendant 29 heures pour m'expliquer comment sa vie avait changé depuis qu'il avait découvert Jésus. Lors de ces 5 années, il avait connu beaucoup de bénédictions et d'épreuves, mais il avait été transformé de manière étonnante. Nous passâmes les 3 jours suivants en discussion mémorable, qui me firent beaucoup de bien. J'essayais à mon tour de l'encourager. Je fus très touché par sa foi grandissante et si sincère. C'était merveilleux de voir comment elle s'était épanouie dans un monde aussi hostile, avec si peu d'occasions de partager des moments de communion avec d'autres chrétiens. « Ce que raconte Pramana s'est passé il y a une vingtaine d'années environ. Et voici ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans. Je vous le relis, le texte que j'ai lu tout à l'heure. Il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tars, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Acte 9, 10 à 15. Ananias a obéi à la vision. Il a prié pour Saul de Tarse, notre Paul, qui a retrouvé la vue et qui, après avoir persécuté les chrétiens, est devenu le disciple que l'on connaît. J'ai une question à poser à ceux qui doutent encore que Dieu agit aujourd'hui de la même façon qu'au temps biblique. Quelle différence y a-t-il entre les visions de Corneille, de Pierre et d'Ananias et celles de Pramana? Ne cherchez pas, il n'y en a pas. À 2000 ans de distance, elles sont les unes et les autres l'œuvre de Dieu pour conduire un homme ou un groupe d'hommes à la foi en Christ. Est-ce étonnant ? Oh non, car comme l'écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Hébreux 13, 8. Les dons de l'Esprit dont parle Paul en 1 Corinthiens 12 n'ont jamais disparu au cours des 2000 ans d'histoire de l'Église. Ce qui a souvent disparu, par contre, c'est la foi en l'Écriture comme étant la source de la vérité. Certains chrétiens relativisent ce que dit la parole de Dieu en ce qui concerne les dons de l'Esprit ou autre chose et préfèrent l'interpréter à l'aune de la rationalité et de la sagesse humaine. Après les dons spirituels, que relativiseront-ils ? La nature divine du Christ ? La résurrection du Christ ? La résurrection des morts ? Jusqu'à réduire la Bible à un simple livre d'histoire ? Vous savez, le danger de la relativisation, c'est qu'on sait où elle commence, mais on ne sait pas où elle s'arrête. Le dernier point que je voudrais aborder ce matin, c'est la question suivante. Qu'est-ce que cela change pour ma vie spirituelle de croire ou de ne pas croire que les dons de l'Esprit, que les dons spirituels sont toujours d'actualité? Qu'est-ce que cela change? Cela change beaucoup de choses. Des choses qui ne sont pas secondaires, mais qui sont essentielles. La première, c'est qu'en niant l'actualité des dons de l'Esprit, qu'est-ce qu'on fait? On se fait juge de ce qui est vrai ou faux dans l'Écriture. Pour le dire autrement, on accorde plus d'importance à la sagesse de l'homme qu'à celle de Dieu. Dans le jardin d'Éden, le serpent a tout fait pour que Ève pense ainsi. Ève disait au serpent, « Le Seigneur a interdit que nous mangions de cet arbre. Sinon, si nous en mangeons, nous mourrons. » Et le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » Faire croire à l'homme qu'il faut savoir interpréter et relativiser ce que dit Dieu est toujours une stratégie du malin. On a vu ce que cela a donné dans le jardin d'Éden. L'homme a été chassé du jardin. On voit ce que cela donne aujourd'hui encore. L'esprit du monde s'incruste jusque dans l'Église. La seconde chose, c'est que, en niant l'actualité des dons spirituels, on se prive de recevoir la puissance dont Jésus a parlé à ses disciples quelques jours avant la Pentecôte. Je le cite. Comme Jésus ressuscité se trouvait avec eux, les disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, leur dit-il, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Et vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes 1, 4 à 8. Que se serait-il passé pour Pramana si les dons spirituels n'étaient plus d'actualité? Je parle de Pramana parce que je vous ai lu son extraordinaire témoignage, mais le livre que je vous ai présenté tout à l'heure en donne tellement d'autres. Et dans les témoignages que nous pouvons entendre les uns et les autres, il y a tellement, tellement de choses merveilleuses qui se passent grâce à ces dons qui ont été donnés aux hommes. Ne pas croire à l'actualité de ces dons, c'est se condamner à ne jamais les recevoir. Donc à se priver de cette puissance offerte par Christ aux croyants. C'est aussi aller contre le désir de Dieu qui, grâce à ses dons, apporte le salut à des hommes, soutient les chrétiens qui sont persécutés et conduit son Église dans le chemin de la vérité. Si, comme le pasteur Ripken, pendant une partie de sa vie, vous doutez encore que les dons spirituels soient toujours d'actualité, il n'y a qu'une chose à faire, frères et sœurs, c'est de vous placer sincèrement devant le Seigneur et de lui demander de vous révéler la vérité. Et soyez sûr qu'il le fera. Même si ça fait 50 ans que vous niez cette évidence. Avant d'être condamné par les religieux de son temps, Jésus a dit à ses disciples, je cite, « Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Jean 16, 13. Je vais juste terminer par une courte prière, mais combien importante. Seigneur, toi qui connais les cœurs, révèle maintenant à ceux qui doutent, mais qui cherchent sincèrement, que tu agis aujourd'hui de la même façon que tu agissais au temps des apôtres.